Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Pierre Schoeffler. Pierre Schoeffler, vous êtes, je rappelle, senior advisor à l'IEIF et également conseiller du président de la Française, mais vous êtes surtout un spécialiste reconnu des FIA immobiliers et de leurs marchés sous-jacents. Alors justement, première question, l'état des marchés immobiliers, ils ont globalement bien résisté depuis la crise sanitaire, mais comment vont-ils évoluer au cours des prochains mois? Il y a certaines menaces, l'inflation, l'obsolescence, etc.
Alors par rapport aux marchés financiers qui ont été violemment secoués par la crise sanitaire, avec une chute brutale des actions suivie d'un rebond très violent, puis une rotation sectorielle entre les valeurs de croissance et les valeurs cycliques, les marchés d'obligations qui ont été également très secoués avec une très forte baisse des taux d'intérêt suivie d'un très fort rebond, les marchés immobiliers, eux, ont été dans le calme plat. En fait, l'immobilier coté avait indiqué que la conjoncture immobilière devait se détériorer. L'immobilier coté est revenu pratiquement sur l'ensemble des actifs et des segments, sauf peut-être le commerce et l'hôtellerie à leur niveau pré-pandémie. Certains secteurs s'en sont bien mieux sortis, comme la logistique et le résidentiel. Donc en fait, l'immobilier a passé la crise, qui était d'une extrême violence, mais très courte. En fait, les traces qu'on va retrouver sur le marché immobilier sont durables parce que cette crise sanitaire a accéléré des tendances qui étaient profondes, qui étaient comportementales, sociologiques, en particulier le développement du télétravail, bien évidemment, et de façon plus large, la numérisation de l'économie. Est une tendance extrêmement profonde qui touche donc le marché des bureaux mais aussi le marché du commerce avec le développement du e-commerce. Il fallait bien acheter sur internet puisqu'on pouvait pas sortir de chez soi, et le développement de la logistique. Donc
on les a observées en termes de valorisation ni en termes de rendement, pratiquement pas.
Alors si sur l'immobilier coté, définitivement l'immobilier coté en Europe, le grand gagnant c'est la logistique. Et le grand perdant, c'est le commerce. Plus perdant d'ailleurs que l'hôtellerie, très étonnamment. Donc oui, et ces traces, on les retrouve sur le marché central du bureau, c'est le marché principal de l'immobilier. Et ce marché des bureaux, il est confronté aujourd'hui à une configuration économique et monétaire auquel on s'attendait pas tellement, je dois dire, il y a encore un an, c'est que les mesures d'endiguement prises par les pouvoirs publics pour compenser les pertes de production liées au confinement de l'économie, eh ben ces mesures d'endiguement ont été très puissantes et sans doute dosées de façon beaucoup plus importante que ce qui était nécessaire, en particulier aux États-Unis. On sort donc de cette période avec des revenus des ménages et des entreprises plus que préservés. Ils ont constitué un trésor de guerre et on le retrouve aujourd'hui dans une demande extrêmement forte pour les biens d'équipement, ce qui se traduit par une inflation très élevée, des goulots d'étranglement puisque finalement l'économie a dû ressortir tant qu'elle pouvait de cette période de confinement et s'en est sortie malheureusement avec des goulots d'étranglement très puissants à l'échelle de l'économie mondiale. Les frontières étaient fermées. Et donc, de l'inflation, beaucoup plus d'inflation que prévu, beaucoup plus. Et évidemment, derrière l'inflation qui monte, le spectre d'une hausse des taux d'intérêt. Donc, le marché immobilier, en fait, c'est maintenant qui va subir les conséquences de la crise.
Et alors justement, l'inflation pour l'immobilier, on dit que justement, l'immobilier est un rempart contre l'inflation. Est-ce que ça peut être le cas actuellement ou et historiquement, comment ça s'est passé?
Alors, l'immobilier est un rempart contre l'inflation, incontestablement. Alors, pas de partout, pas dans tous les pays. Et pas toutes les formes d'immobilier de la même façon. Il faut être un peu plus nuancé là-dessus. Le logement, l'immobilier résidentiel offre une couverture forte contre l'inflation. Alors, on parle Il faut bien voir que la couverture n'est pas une couverture instantanée, c'est une couverture sur le moyen long terme. C'est pour une détention à un horizon 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est pas une couverture à l'horizon d'un an. Alors, le résidentiel offre une couverture assez forte. Les bureaux, un peu moindre, parce qu'il y a un aspect plus cyclique. Le commerce offre une très 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 bonne couverture contre l'inflation, et on le comprend pourquoi, puisque le commerce, effectivement, c'est lié à la consommation des ménages, et donc à l'inflation, donc dans les deux sens. Et en revanche, l'inflation signifie, de la part des banques centrales, lorsque c'est une inflation pérenne, est une inflation en spirale, prix-salaire, qu'il est nécessaire pour les banques centrales, dans leur mandat de stabilité des prix, de monter les taux d'intérêt pour, justement, diminuer cette demande excessive et, finalement, faire baisser l'inflation. Alors là, nous avons un double effet. Les taux d'intérêt réagissent avec retard sur l'inflation. Donc, dans un premier temps, l'anticipation de la hausse de l'indexation des revenus locatifs est beaucoup plus forte que l'effet, on peut dire négatif, de la hausse du taux d'actualisation sur les cash flows immobiliers. Donc en fait, l'immobilier se comporte en début de période plutôt bien lorsque l'inflation accélère.
Ce qui est le cas aujourd'hui.
Ce qui est le cas aujourd'hui. Et ce qui a été le cas durant les périodes, la dernière grande période inflationniste, 75 à 85, où finalement, durant cette période-là, les bureaux et le logement ont fait à peu près aussi bien que les actions, et donc une performance globale positive sur les 10 ans, et même relativement importante, est très supérieure à celle des obligations, qui sont évidemment l'actif le plus perdant.
D'accord. Bon, alors, je voulais qu'on parle un peu plus des performances des CPI en 2021. Juste un mot pour dire que le taux de distribution, alors on viendra si on a le temps ensuite sur le nouveau indicateur mis en place par la SPI, mais grosso modo, en 2021, les CPI ont rapporté du 4,45 contre du 4,18. Juste en un mot, pourquoi cette hausse selon vous, si on exclut l'effet taux de distribution, enfin changement d'indicateur?
Oh, je pense que hausse, disons que effectivement il y a un changement de composition aussi dans l'ensemble de cet univers de SCPI. Les taux de distribution sont pas du tout uniformes selon qu'on parle des bureaux, des commerces, des diversifiés et tout ça. Donc il faut corriger également parce qu'il y a eu énormément de lancements, de produits nouveaux, de choses de ce type. Moi je parlerai de façon globale de stabilisation. L'an dernier la distribution a bénéficié de la capacité de certaines SCPI de pouvoir distribuer du report à nouveau. Cette année, c'était pas le cas. C'est donc quelque chose de plus sain. Je pense qu'on a une stabilisation du taux de distribution et c'est tout à fait caractéristique du fait que sur le marché de l'immobilier physique, on a eu une stabilisation des taux de capitalisation. Donc en fait,
donc c'est corrélé.
C'est corrélé.
D'accord. Alors je voulais qu'on parle de, il y a un sujet qui vous tient à cœur, je sais. Donc on a parlé du nouveau taux de distribution, mais il y a surtout aussi une autre réforme qui a été engagée par la SPIM, c'est une nouvelle catégorie pour les CPI, mais qui ne s'accompagne pas, en fait, comme vous le disiez, il y a de plus en plus de disparités entre les CPI, mais on a l'impression que les indicateurs de risque, et vous avez travaillé dessus, ne reflète pas cette différenciation de risque entre chaque stratégie de SCPI. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, la chose intéressante avec l'arrivée finalement de la régulation PRIIPs, qui a obligé d'avoir un DC normalisé, quel que soit le fonds commercialisé, l'objectif final étant de faire un marché unique de l'épargne en Europe, c'est que PRIIPs essaye d'englober dans une même méthodologie des choses très diverses, comme des fonds monétaires ou des fonds constitués d'options. Donc en fait, l'immobilier à l'intérieur de PRIIPs se trouve en classe intermédiaire. Et finalement, la discrimination est très faible. Tout l'immobilier se retrouve à peu près dans la même classe. Qui est intermédiaire entre celle des obligations et celle des actions. Donc PRIIP, c'est insuffisant pour donner, c'est un outil trop grossier pour donner la bonne vision du risque sur les... Alors, la classification économique proposée par la SPIN, c'est un affinement de la classification précédente, où on avait uniquement bureau, commerce, diversifié et spécialisé. Maintenant, on est un peu plus fin, on a une spécialisation avec logistique, parcs d'activité. En fait, la même classification économique qu'on a dans le monde institutionnel avec les indices MSCI. Donc, cette classification est insuffisante à mes yeux, et il est nécessaire d'aller vers une véritable notation des SCPI, qu'on a un peu en parallèle, on pourrait le comparer avec la notation qu'on a obtenue progressivement sur les obligations d'entreprise, dans lequel on a des notations avec l'investment grade, le high yield, le crossover, enfin, un certain nombre d'indications qui sont basées non pas sur, les performances actuelles, mais le profil de risque des actifs eux-mêmes.
Donc ça pourrait être les stratégies mises en place par les SCPI. Il y en a de plus en plus qui sont opportunistes, il y en a certaines qui restent core, d'autres qui sont value-added, etc. Donc ça pourrait être ça, par exemple ?
Absolument. La grande difficulté, c'est que il faudrait, pour faire bien, évidemment, que chaque immeuble soit noté. Et la notation des immeubles est un sujet très complexe. Même si certaines PropTech s'y attaquent aujourd'hui avec un certain succès. Néanmoins, effectivement, au moins au niveau des stratégies, comme tu le dis, il faudrait au moins que ces stratégies soient bien identifiées et clairement identifiées au-delà des secteurs économiques.
D'accord. Alors, dernière question, parce qu'il nous reste une minute. Vous êtes un observateur donc, du marché des gestionnaires d'actifs. On a dit, il y a de plus en plus de nouveaux produits, il y a des acteurs traditionnels qui résistent, mais on a l'impression qu'il peut y avoir un mouvement de concentration au sein des gestionnaires d'actifs. Vous en pensez quoi ? On va arriver sur la montée en puissance de nouveaux acteurs, ou au contraire, la consolidation des anciens, si je puis dire ?
Je crois beaucoup à la consolidation. Il y a environ 50 sociétés de SCPI aujourd'hui. C'est beaucoup pour 50 sociétés de SCPI, pour une centaine de véhicules. Ça, c'est pas, le secteur n'est pas à maturité du tout. Il va se concentrer.
Mais il va se concentrer au profit de qui, justement ? C'est la grande question.
Alors, au profit des gens qui seront capables de gérer de grands véhicules, parce que les SCPI vont devenir des grands véhicules. On l'a vu l'an dernier avec la consolidation de certains grands véhicules. Maintenant, on a des SCPI qui font 4 milliards d'euros. C'est une taille normale pour un fonds immobilier, et donc c'est vers là qu'on va aller.
Donc l'avenir est aux grosses SCPI. Pierre Schoeffler, merci.
Merci.
Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.